franceinter.fr.
Il n'a que 15 ans, il est québécois et il vient de découvrir seul dans sa chambre et avec Google Earth une gigantesque cité maya qui avait jusqu'à présent échappé aux plus grands spécialistes.
Il manquait l'étoile de Safe, dans le fond, qui devait être représentée par une cité.
OK.
Mais là, il n'y avait rien. Fait que je me disais, c'est-tu moi qui ne l'ai pas trouvé à la bonne place? Es-tu ailleurs?
Sans quitter sa chambre, il se rue sur Internet et fait sa première découverte.
J'ai cherché avec Google Earth, j'ai trouvé quelques traces qui m'ont convaincu qu'il y avait vraiment la présence d'une cité maya.
Voilà, c'est William Gadouri, 15 ans, un extrait du journal de France 2, mardi 9 mai dernier. Mais hélas, cette histoire de cité maya est complètement fausse. C'est ce qu'on appelle un hoax, et pourtant l'invraisemblable découverte du petit génie a fait le tour du monde et de la presse. Il a été repris donc ce sujet sans aucune réserve par de nombreux journalistes. Et pour comprendre les ressorts de cette mésaventure, eh bien nous sommes au téléphone avec Marie-Charlotte Arnaud. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS et spécialiste de la Mésoamérique. Et puis également en ligne avec nous, Anne-Sophie Jacques. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le site Arrêt sur Image qui a participé à lever le lièvre sur cette affaire. Marie-Charlotte Arnaud, commençons par la science. Que pensiez-vous justement au sujet de cette trouvaille de William Gadouri au sujet des Mayas?
Écoutez, l'histoire est essentiellement centrée sur une hypothèse qui est la planification par les Mayas anciens de l'ensemble des cités, de leurs cités, en fonction des constellations. Et cette hypothèse est aberrante. On ne peut pas la valider, on ne peut pas la vérifier. Elle est tout bonnement aberrante. Donc, le fait qu'ils prétendent avoir découvert une cité maya à partir de cette hypothèse, après une série de démonstrations, c'est non avenu et ça ne prouve absolument pas que l'hypothèse était vérifiée. Mais il y a dans sa démarche quelque chose de long, de sérieux, de laborieux, d'élaboré, qui impressionne les journalistes et le public, et nous aussi, bien sûr. Et donc, on y fait attention. Et puis, il y a cet aspect logique apparent qui donne l'impression que la découverte de la cité valide, si vous voulez, en quelque sorte, l'hypothèse de départ. Il y a cette apparence de logique qui est en fait de la logique purement formelle, et c'est en fait ce qu'on appelle tout simplement un sophisme. Bref, ça ne tient pas debout. Alors, par ailleurs, il y a une série d'arguments que je peux donner aussi qui font que ce site ne pouvait pas être découvert.
Alors, le principal argument, c'est un problème chronologique quand même.
Il est impensable qu'une centaine de villes, mayas ou autres d'ailleurs, aient pu être fondées et construites en même temps sur la base d'un grand dessin, d'une grande planification, fut-elle astronomique, astrologique, cosmologique, qui se développe de façon contemporaine, si vous voulez. Chaque ville est une fondation politique, socio-économique, historique, faite dans des circonstances données. Toutes les villes mayas ne sont pas fondées ni occupées en même temps, et l'hypothèse fait l'impasse sur trois millénaires, tout simplement.
Donc c'est l'erreur, l'erreur principale qui quand même est importante de 3000 ans. Axel.
Anne-Sophie Jacques, comment cette histoire et cette erreur a-t-elle pu faire le tour du monde de cette manière et aussi vite?
C'est une excellente question. Pour revenir un petit peu à la source, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de monde, j'imagine, cette histoire extraordinaire de découverte de cité maya par un jeune adolescent. Et très vite, Arrêt sur Image, on s'est rendu compte que l'information n'était pas reprise seulement par les réseaux sociaux, mais aussi par un grand nombre de médias, français notamment. Libération a consacré un article très étayé sur cette découverte, mais on a vu aussi des chroniques dans Télématin sur France 2, sur LCI, jusque dans le JT de France 2 le lundi soir, comme vous l'avez cité. Et là, petite puce à l'oreille, on s'est dit, d'abord, c'est une histoire qui est un petit peu trop belle à nos yeux, et puis elle est reprise comme ça, sans distance. Alors la petite puce à l'oreille, elle est née du fait que on s'apercevait très vite que tous les médias se basaient sur une seule source, à savoir le journal de Montréal, qui avait publié le scoop ce week-end, et rien d'autre. Alors voilà, j'ai continué mes recherches auprès de la presse française, et c'est en découvrant un article de l'Obs qui est assez amusant, parce que comme tous les confrères, ils commencent par cette découverte phénoménale, donc un article assez dithyrambique, mais à la toute fin de ce papier de l'Obs, on posait quand même la question de savoir si c'était pas un canular, et ils renvoyaient vers un site vers le forum d'un site qui s'appelle le site Oxbuster, qui justement se charge de mettre à jour des canulars. Et dans ce forum, il y avait une poignée de sceptiques, alors qui ne remettaient pas forcément en doute les hypothèses du jeune homme, mais qui s'interrogeaient quand même sur cet emballement médiatique. Et de là, je suis tombée sur une file de discussion d'un groupe Facebook consacré à l'archéologie. Pareil, plein de sceptiques, sans démonter les arguments du jeune adolescent, mais qui se demandait, tiens, si on posait la question à Marie-Charlotte Arnaud, savoir ce qu'elle en pense. Je lui ai envoyé un mail et Marie-Charlotte m'a répondu immédiatement avec les arguments qu'elle vient de déployer à votre antenne.
Cette petite puce à l'oreille dont vous parlez, c'est normalement l'apanage de tous les journalistes. Pourquoi que vous ou certains d'entre vos confrères l'ont eu? C'est assez étrange que cette puce disparaisse petit à petit, non?
Bon, alors déjà, il faut savoir qu'Arrêt sur image, on est quand même une équipe très très sceptique, hein, on se méfie beaucoup de ce genre d'emballement médiatique, et je vous avouerai qu'on est encore aujourd'hui totalement sans voix de voir que les confrères ont pu reprendre une info sans même passer un coup de fil à Marie-Charlotte Arnaud ou à son collègue Éric Taladoir, qui sont vraiment les plus à même à répondre à ces questions. Donc là, je vous apporte pas de réponse, mais bon, on peut imaginer que l'information en soi est très belle. C'est un jeune homme, un jeune génie de 15 ans, comme le disait Marie-Charlotte à l'instant. Tout ceci a l'air très très logique et aussi très contre-intuitif. On s'imaginait pas une seule seconde qu'on puisse se construire des cités à partir de constellations. Donc tout ça bien emballé, on le reprend puis ça fait un buzz.
Marie-Charlotte Arnaud, aucun journaliste ne vous a contacté? Vous n'avez pas répondu à des interviews?
Alors, et moi, j'ai été contactée par une télévision lundi soir, lundi tôt, hein, un lundi à 4h30. Et il fallait, alors que j'étais très 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 mal informée à ce moment-là, mais j'étais déjà informée et j'avais le principal argument contre cette affaire que je vous ai exposée. Et il était très net que je devais, devant la caméra, dire que l'hypothèse de ce jeune était fort intéressante, mais qu'il fallait la vérifier. Voilà ce que on me demandait de dire cela. C'est-à-dire qu'en plus, c'était deux jeunes journalistes qui se relayaient à mon téléphone portable. Moi, je refuse jamais. J'estime que les scientifiques, quand on nous pose des questions, on doit éclairer. Donc, je ne refuse pas, ça a duré assez longtemps. Mais j'essayais de leur faire passer désespérément le message qui est le mien. L'hypothèse n'est pas réfutable, elle n'est pas validable. Donc, elle n'est même pas vérifiable, si vous voulez. Ce n'est pas la peine d'aller voir si on a trouvé un site ou pas. L'hypothèse est absurde. C'est très important de bien mettre le point sur le fait qu'on est hors science, puisque l'hypothèse n'est même pas validable, même pas vérifiable. Ce garçon utilise des outils comme un marteau et des tenailles, en l'occurrence des outils d'informatique, géomatique, etc. Et c'est pas fini, on va en voir d'autres. Mais il les utilise sans aucun concept, ni astronomique, ni anthropologique, sociologique, urbanistique. Comment voulez-vous que ça puisse donner des résultats? Ça ne donne qu'une hypothèse qui ne tient pas debout et qui n'est pas vérifiable.
Bon, mais en tout cas, hypothèse qui a séduit les médias du monde entier, évidemment, parce que tout s'est embrasé très très vite cette semaine. Arrêt sur image, Anne-Sophie Jacques, vous allez, je crois, publier un dossier sur la déroute du journalisme scientifique. On en reparlera avec vous et avec Daniel Schneiderman, j'en suis sûr, parce qu'évidemment, cette question nous intéresse au plus haut point. Merci beaucoup,
Je voudrais bien réagir très très vite. Qui est le bon terme. C'est contre-intuitif, elle a raison. Anne-Sophie a raison. En réalité, c'est contre-intuitif parce que il n'y a pas de monde politique capable de faire ce que les anciens Mayas auraient fait. Et là, on entre en fait carrément dans la pensée mythique. C'est contre-empirique et c'est de la pensée mythique. Et il ne faut pas non plus écrabouiller ça sous prétexte que nous avons la science. C'est compliqué, il faut quand même être attentif à ce à une certaine forme de pensée qui passe. C'est pas très normal que aussi les journalistes fassent ça. Les écoles de journalisme, un peu d'anthropologie, s'il vous plaît, c'est indispensable dans le monde actuel.
Merci pour ce mot d'ordre, Marie-Charlotte Arnaud. Merci également Anne-Sophie Jacques, Axel.
Une pensée pour le petit William qui est quand même victime, malgré lui, de toute cette histoire.
C'est vrai qu'on a essayé de joindre, mais qu'on n'a pas eu. Hein. Il doit pouvoir faire face à tout ce qui lui tombe dessus, j'imagine, depuis quelques temps. Merci beaucoup et à demain, Axel, pour une nouvelle une de la science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'utilisation de la hache semble plus ancienne que ce que pensaient les scientifiques. Des archéologues archéologues de l'Université nationale d'Australie ont déterré des morceaux de haches âgées de 49 000 ans dans la région de Kimberley, en Australie occidentale, 14 000 ans plus vieux que les précédentes découvertes réalisées au Japon. Les premiers Australiens arrivés il y a environ 50 000 ans semblent donc être des précurseurs dans la fabrication de ce type d'outils. La carotte plus nutritive que jamais, selon un article publié dans la revue Nature Genetics, des chercheurs ont séquencé le génome de la carotte et ont trouvé un gène responsable de l'accumulation de carotène. La carotène, ce pigment orange qui est converti par le foie en vitamine A, essentielle à notre organisme. Les scientifiques estiment que la carence en vitamine A est un enjeu de santé publique. C'est pourquoi ils aimeraient s'assurer de la présence de ce gène dans les générations futures de carottes par croisement naturel pour améliorer leur valeur nutritive. Et puis tout comme les humains, l'écureuil fauve montre des signes de frustration lorsqu'il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut. Et quand c'est le cas, eh bien l'animal fouette l'air avec sa queue pour montrer son exaspération. Des chercheurs de l'université de Berkeley en Californie ont observé et filmé 22 écureuils en les mettant dans des situations particulières. Ils ont d'abord habitué l'animal à recevoir de la nourriture dans une boîte pour ensuite les confronter à cette même boîte mais fermée. Plus l'animal semble frustré, plus il fouette l'air avec sa queue et plus il persiste et s'essaye à de nouvelles techniques pour ouvrir la boîte. La vidéo du petit écureuil frustré sur la page Facebook de La Tête au Carré.